Le club de l'info, Florian Barbet.
En terre catholique, on vit aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints. Et demain, le 2 novembre, ce sera la célébration des morts, des disparus. La mort, voilà un sujet qui nous touche et nous frappe tous, chacun à notre heure, puisque c'est là l'aboutissement de notre bref passage sur terre. Mais la mort, si nous devons tous nous résoudre à avoir à la tutoyer un jour, le dernier jour, elle nous cerne tout au long de notre vie en nous imposant la douleur de la perte et du deuil. Ces moments de deuil, on peut les vivre plus ou moins bien, ou plutôt plus ou moins mal. À travers les siècles, mais aussi à travers les continents et les civilisations, le rapport au deuil et à la mort est très différent. Que dire aujourd'hui de notre rapport à la mort et quelles sont les armes pour accepter cet inévitable moment de douleur? La question est posée ce soir dans le club. J'ai le plaisir d'accueillir, pour en parler, Rosette Poletti, thérapeute bien connue des lectrices et lecteurs de la presse romande, présidente de l'association Vivre son deuil. Bonsoir.
Bonsoir.
Séverine Joris est également avec nous, membre de cette même association Vivre son deuil et auteur d'une brochure sur le deuil, animatrice également, toute récente, des Cafés Mortels dans le Chablais. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis le prêtre Vincent Lafargue, prêtre à Montais, qu'on connaît bien dans le club de l'info. Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Alors Rosette Poletti, merci d'être avec nous d'abord. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes finalement, comme présidente de cette association, on vous a lu dans la presse, je le relevais, sur de multiples sujets. Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à la mort?
Oh, disons à la mort et au deuil. À la mort parce que j'ai travaillé dans le système hospitalier et puis que j'ai été au départ des soins palliatifs lorsqu'ils se mettaient en place aux États-Unis puis après en Suisse. Et puis ensuite, depuis le temps où je ne suis plus à l'intérieur des hôpitaux, je me suis intéressée au deuil parce que je trouve que c'est une des épreuves les plus graves pour l'être humain. Et souvent, le deuil peut être à l'origine de mal-être et de maladies qui le suivent.
Mmh. Alors, moi, j'avais dit donc à chacun d'entre vous, avant, en préparant cette émission, que je souhaitais, avant peut-être d'aborder des points un peu plus pratiques, parce qu'on verra qu'il y en a, de parler de ce fameux rapport à la mort, peut-être à travers les époques. Vincent Lafargue, si l'Église catholique fait encore, comme d'autres églises d'ailleurs, fait encore partie de ces institutions qui accompagnent les gens en deuil, ça fait longtemps que ça dure pour le catholicisme. Est-ce que le rapport à la mort a changé au fil du temps?
C'est évident, mais... Rosette Poletti le dirait mieux que moi, certainement que Séverine aussi. Ce que j'observe en tout cas aujourd'hui, c'est que la mort devient de plus en plus un tabou dans notre société. Qu'on n'ose pas en parler, qu'on la cache, qu'on la fuit, alors que la mort c'est la vie, si vous me passez l'expression. Et de mon côté, en tout cas comme prêtre, je ressens cela. Il y a des choses, des mots que l'on n'ose pas prononcer, des choses que l'on n'ose pas dire lorsqu'on vient vers nous. Et c'est de notre devoir de la réhumaniser d'une part, mais aussi de la rendre présente, de montrer aux gens qu'elle est là, que ce n'est pas une chose horrible ou sale, que c'est une chose qui fait partie de la vie. Et c'est important de l'intégrer dans un travail de deuil.
Rosette Poletti, qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps pour que les Européens, du moins, c'est de ça qu'on va parler, on parlera peut-être d'autres régions, d'autres continents tout à l'heure, se soient éloignés de la mort comme ça? C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'à l'époque de nos grands-parents, ou si on remonte encore plus loin dans l'histoire, la mort faisait partie du quotidien.
Oui, tout à fait. Il y a eu d'abord les progrès de la médecine qui ont fait que la mort est devenue ou un échec ou un scandale. Un enfant qui meurt, ça n'existe plus, ça ne devrait plus exister. Alors que, par exemple, du temps de nos grands-parents, on savait que l'enfant pouvait mourir et qu'on était là pour mourir, comme vous le disiez, à la fin de sa vie. Tandis qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup trop la mort comme un échec. Et puis, il y a aussi, je crois, cette mobilité qui fait que on n'est plus dans des groupes et dans des communautés, et que quand ce deuil nous arrive ou que la mort nous arrive, on est quelquefois très seul pour y faire face. Puis la troisième chose, c'est aussi quand même la diminution de l'influence de la religion, c'est-à-dire que quand on pouvait évoquer la mort, comme disait Monsieur l'abbé, avec une espérance, c'était autre chose que simplement de la voir comme la
comme une fin
ultime. Une fin vers un grand trou noir, et voilà, comme trop de gens le voient maintenant.
Séverine Joris, vous, donc j'ai dit, vous avez édité une brochure, on en parlera tout à l'heure, ce sont des aspects très pratiques sur comment aborder un deuil, puisqu'on verra qu'il y a évidemment une foule de choses à penser et à faire au moment du deuil. Mais vous avez aussi suivi une formation avec, entre autres, Rosette Poletti d'ailleurs, oui. qui débouche sur un diplôme européen d'accompagnement de personnes endeuillées. La société se rend compte qu'en Europe, les gens, les familles sont peut-être plus à même de faire face toutes seules.
Oui, donc Rosette a répondu tout à l'heure. J'ajouterai effectivement que la société a changé. Donc avant, on habitait jusqu'à 3 générations sous le même toit. Donc la mort faisait partie de la vie. Les enfants voyaient
et mourir, les grands-parents.
Mourir, entendaient. Enfin, c'était vraiment
naturel.
Naturel. Et puis maintenant, eh bien, c'est difficile parce que déjà la société, les gens travaillent, les personnes âgées, enfin nos parents, grands-parents sont souvent placés dans des homes. On ne peut pas s'en occuper, la même chose. Et ça devient difficile à cause. Et puis notamment aussi, on doit être jeune, sportif. On laisse plus de place.
Alors, Rosette Poletti, on met la mort de côté, mais c'est vrai qu'on met aussi la maladie de côté, on met handicap, il y a des choses qu'on cache, parce qu'on a une société du paraître, c'est
ailleurs,
ça
ailleurs, et que quelqu'un d'autre s'en occupe, pour de bonnes raisons, comme ça vient d'être soulevé, mais tout de même, c'est vrai qu'on a tendance à repousser tout ce qui n'est pas gage de succès ou vision de succès dans la vie, comme on le croit.
Vincent Lafargue, Rosette Poletti a évoqué la perte d'influence des églises, c'est un mystère pour personne, du moins, encore une fois, dans nos terres du Nord, parce que c'est pas le cas dans les terres du Sud, et peut-être qu'on en parlera sur le rapport à la mort qu'on a peut-être en Afrique ou en Amérique du Sud. Est-ce que c'est ça, finalement, la spiritualité, c'est quelque chose qui aidait aussi au Cap?
Oui, ça j'y crois évidemment fortement. D'autant plus la spiritualité, qui est toujours, oui, d'autant plus bien sûr la spiritualité chrétienne, puisque pour nous, entre guillemets, la mort n'existe pas. Elle existe sur le moment, mais elle est un passage vers une vie éternelle. Donc au fond, l'espérance que nous avons de cette vie éternelle rend la mort évidemment pas anecdotique, mais rend la mort d'une certaine manière un passage, une porte vers une autre vie. Donc la spiritualité aide, la foi aide. J'ai parfois des gens qui viennent me dire « Mais quelle chance tu as de croire ! Quelle chance tu as ! » Je n'en avais jamais pris conscience avant qu'on me le dise. C'est vrai que ça aide beaucoup. Néanmoins, je pense que nous, les responsables religieux, ou bien les personnes qui ont été formées dans le domaine de l'accompagnement des personnes endeuillées, on a aussi un devoir d'apporter cette espérance aux personnes qui ne sont pas croyantes. Parce que la mort pour ces personnes-là peut être quelque chose de beaucoup plus angoissant, sachant qu'il n'y a rien après. Ça peut être libérateur aussi, de savoir qu'il n'y a rien après, mais ça peut être très angoissant. Et on a aussi une parole, je pense, à leur apporter, une parole de soulagement, et puis une parole aussi dans le travail de deuil. On en parlera peut-être ensuite, mais ce travail de deuil, il est trop souvent sous-estimé, il prend du temps, il est important, et il est à faire avec des personnes en étant accompagné.
On va parler de cet accompagnement. Vous avez relevé que c'était spécialement vrai pour les religions chrétiennes, les autres aussi, ont un passage vers une autre vie. Moi, j'aime bien le côté bouddhiste, d'ailleurs, le côté revenir sur Terre en réincarnation. On connaît la Terre, c'est chez nous, on connaît les meubles.
Si ce n'est que si vous interrogez un bouddhiste, j'en ai parmi mes amis, il vous expliquera que la réincarnation n'est pas tout à fait une joie pour lui. C'est au contraire quelque chose c'est un problème. Son but à lui, ça va être de ne plus se réincarner. On a tendance à voir le bouddhisme avec un œil un peu fleur bleue, comme ça, on revient, c'est bien, mais pour eux, c'est pas bien du tout, si vous leur posez la question.
Si on se réincarne, c'est qu'on n'a pas atteint la plénitude.
Oui.
Rosette Poletti, vous avez, comme Bernard Créta en Valais, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais Séverine Joris a repris le flambeau dans le Chablais, on en parlera, vous avez lancé vous animez aussi des cafés du deuil, vous appelez ça, en Valais on appelle ça café mortel. En quoi ça consiste? Racontez-nous un peu ça.
Alors c'est un moment où on se rassemble dans un café quelque part où on nous a acceptés Et puis, il vient un certain nombre de personnes et on chacun s'exprime, s'il en a envie, sur la base de trois grandes questions. Par exemple, la plupart des gens qui viennent sont en deuil ou ont connu le deuil, et on dit: qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Et puis les gens peuvent s'exprimer. Et puis: qu'est-ce qui vous a aidé? Et qu'est-ce que vous diriez à d'autres gens qui sont dans cette situation? Et puis bon, bien sûr, la discussion va dans des sens qui sont exprimés par les participants. Mais l'idée, c'est de pouvoir parler de son deuil, parce que ce qu'on a vérifié, c'est que on est de moins en moins accueilli avec son deuil et ce qu'on voudrait en dire. Très rapidement dans la famille, on dit: bon, ben écoute, maintenant il faudra tourner la page. Alors, comme disait Monsieur l'abbé, c'est vrai que ça se tourne pas comme ça. C'est une longue épreuve qui peut durer des mois, des années, et on a besoin de parler. Christian Bobin, cet auteur français tellement poétique et incroyable, il dit: quand les mots ne peuvent pas passer les lèvres, ils s'en vont hurler au fond de l'âme. Et c'est un peu ce qu'on a pris comme tête d'affiche, si vous voulez, dans notre association. On voudrait, et on le fait, créer des espaces et des possibilités pour que des gens puissent dire ce qu'ils ont vécu, puissent en parler à quelqu'un qui accueille tout ça. Et moi, je suis absolument émerveillée de voir comment les gens sont capables d'accueil et d'écoute quand quelqu'un est vraiment dans sa vraie authenticité, où il parle de ce qu'il a vécu.
C'est vrai que Cyrine Jurid, ça fait penser au groupe de parole, hein. On a les alcooliques anonymes, des tas de groupes de parole comme ça, où des gens qui ont vécu quelque chose en commun viennent échanger et ça les aide. On est vraiment dans une civilisation où la parole est difficile, où il faut créer des choses artificielles pour pouvoir parler.
Alors qu'on a tous les moyens avec Internet, Facebook, Skype, et oui, effectivement, ça se perd, une vraie rencontre dans un café autour d'une table. Et une chose très importante à ajouter dans ces cafés-là, c'est que tout ce qui est dit là reste là. La confidentialité, ça c'est vraiment important. On ne se coupe pas la parole et on n'est pas là pour donner des conseils, pour juger. T'en es là avec ça, tu le partages, merci de le partager. Si quelqu'un veut rebondir ou continuer dans cet esprit, qu'il le fasse. Mais on ne va pas couper la parole. Il faudrait que tu fasses ceci, cela.
Ça s'apparente à la confession, tout ça. La confession ou le dialogue.
Il y a la même confidentialité.
L'expression, et puis l'expression d'émotions, quelquefois, qui sont plus du tout bien vues dans notre culture, où on prône surtout le contrôle de soi, une sorte de... Oui, de capacité de ne pas montrer ses émotions. Et c'est vrai que ceci, c'est vraiment au détriment du travail de deuil, où il y a des émotions, et quelquefois des émotions très fortes.
Rosette Poletti, vous avez voyagé, j'ai moi-même voyagé un petit peu. C'est vrai que quand on va en Afrique, dans d'autres continents moins développés que nous, si on permet cette expression, le travail de deuil est totalement différent, l'expression est totale, à grands coups de cris, de larmes. On avait à une certaine époque les pleureuses, qui agissaient aussi chez nous en Europe. Encore une fois, moi, je peux pas croire que c'est seulement la fin d'influence des religions en Europe ou simplement les progrès de la médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre civilisation individualiste jusqu'au boutiste dans l'individu qui fait qu'on est bloqué, on est paralysé.
Oui, et puis je crois aussi cette dimension du contrôle. Quelqu'un qu'on admire, on dit il est sans état d'âme, comme si c'était une qualité particulière, quoi. C'est ce désir de contrôle. Et puis, la sous-estimation de l'importance des rites. Par exemple, les rites, je parle à notre inconscient. Quand on vit un rite, on est non seulement dans une pensée, mais on reçoit quelque chose au niveau des émotions et du vécu profond. Et notre inconscient prend acte de ce qui se passe dans ce rite. Et quand on les enlève, moi je vois presque tous les jours des gens qui ont vécu des deuils, comme on dit maintenant, dans la plus stricte intimité, etc. Longtemps après, ils ont une impression de pas fini, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui marquait la fin d'une page qui devait se tourner. Et ça, on l'a pour beaucoup de choses. On enlève des rites partout, et je crois qu'on n'est pas en train de se rendre compte quel dommage ça peut causer.
Mmh. Oui.
Alors moi, j'encourage tout le monde à, ne serait-ce que par hommage, ça fait 30 ans qu'il nous a quittés, à réécouter les funérailles d'antan de Georges Brassens, qui parle de ça, justement, hein, qui parle d'une époque où on avait à cœur de montrer qu'on aimait celui qui est parti, en lui organisant en grande pompe des funérailles, en convoquant tout le village, et que là, en effet, ça a changé chez nous.
Oui, très fortement, oui.
On va parler un petit peu des aspects pratiques. Séverine Juris, vous avez édité, Rosette Poletti, vous avez un site internet, hein, l'association Vivre son deuil a un site internet aussi avec beaucoup d'aspects pratiques relevés. Vous avez édité, vous, une brochure pour votre commune, Colombey-Murat. Finalement, vous êtes rendu compte qu'il y a une vraie demande, parce qu'au moment du deuil, on ne sait pas quoi faire.
Exactement, donc des choses pratiques, administratives, juridiques aussi. Les liens aussi avec la banque, les comptes sociaux, comme je parlais d'Internet tout à l'heure.
Oui, il faut fermer Facebook.
Oui, personne n'a le mot de passe. Mais... Et puis voilà, c'est une situation que j'ai vécue. Et c'est des choses très difficiles pour les familles, les gens qui restent après. Et puis, j'ai cité des adresses utiles, parce que je trouve que c'est très très important que les gens sachent qu'il y a la paroisse, bien sûr, catholique, protestante, etc. Il y a aussi des associations, des lignes d'écoute, des numéros de téléphone. On peut aussi s'aider par les livres, par des comptes pour les enfants. Et pour aussi continuer ce que disait Rosette tout à l'heure, en parlant des rites, eh bien, il y a aussi des rites qui sont possibles à tout moment. Même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard, s'il y a encore un couac, il est tout à fait possible.
Mmh. Moments de catharsis, hein, de purification, mm-hmm. aller répandre des cendres quelque part, se souvenir, ça fait partie de ça. La visite de novembre au cimetière.
J'en sors, mm-hmm. On a vécu non seulement la visite, mais une belle célébration au cimetière, et plusieurs personnes m'ont dit à la sortie combien c'était important pour elles de prendre cette petite bougie qu'on leur donnait, cette fleur qu'on leur offrait, et puis d'aller la poser. C'est un geste tout simple, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on a besoin de ce geste. Et Rosette Poletti le disait, on déplore de plus en plus, hein, quand des obsèques se font dans l'intimité ou dans la stricte intimité, on essaye de le dire aux personnes, ne faites pas ça, parce que ça va être plus difficile après, ça va être beaucoup plus difficile de faire le travail de deuil. Ces rites, on en a besoin, quelle que soit la religion de la personne, quel que soit le rite qu'il choisit, qu'elle choisit, et on peut, avec une association comme la vôtre, on peut encore poser des rites par la suite. Et ça peut être très important.
Oui. Le rite peut être là pour les athées aussi, d'ailleurs.
Bien sûr.
Aller faire une bonne bouffe avec les amis, partager quelque chose autour de la personne qui s'en va. Vous allez me gronder parce que j'ai dit qu'il s'en va. Il y a un truc qui m'a intéressé, Séverine Juris, quand on parlait avant l'émission, c'est aussi le rapport qu'on donne aux enfants par rapport à la mort. Hein. On prononce plus le mot, déjà.
Oui, alors ça c'est quelque chose de très très important, parce que effectivement, si on dit à un enfant grand-papa s'est envolé, ou Dieu est venu le chercher, ou il s'est endormi, chez l'enfant ça peut être catastrophique. Il peut faire des insomnies,
Il n'osera plus s'endormir,
fermer les volets, avoir peur qu'on vienne le chercher la nuit, etc. Et je pense que si on met les mots, un enfant est tout à fait capable de tout comprendre, de tout entendre.
À la paroisse catholique de Montaigne, vous faites des choses comme ça avec les enfants?
Oui, encore ce samedi, on fait un petit passage avec les tout-petits, avec l'éveil à la foi. On a deux mamans qui s'en occupent merveilleusement bien. Et on fait un passage au cimetière avec les tout-petits, et on leur explique. Voilà ce qui se passe dans ce lieu, voilà ce que c'est, voilà pourquoi ça existe. Et on s'aperçoit qu'ils comprennent très bien. Il ne sert à rien de leur cacher ou de leur éviter le contact avec la mort. Ils l'auront, de toute façon, hein, à un âge ou à un autre, et ils vont se poser des questions. Donc, autant le leur expliquer, mais autant aussi expliquer aux parents comment répondre à leurs questions. Parce que parfois, comme parent, on peut être très très démuni face à un enfant qui pose tout à coup une question sur la mort.
Rosette Poletti, on se rend compte, hein, il y a le besoin de parler, le besoin d'exprimer, de faire sortir les émotions. Et puis là, on a tout à coup aussi l'importance du mot juste. On a une civilisation politiquement correcte où on ne peut plus appeler les choses par leur nom. On ne peut plus appeler un chat un chat. Et du coup, la mort a disparu du vocabulaire au profit, Séverine Juris le disait, il s'est endormi, il est parti.
Voilà,
le mot juste, il est important aussi. Il n'est pas là par hasard, ce mot-là.
Oui, il est important. Et puis, moi, je dis souvent que quand, par exemple, parlons de l'enfant, quand l'enfant pose des questions, c'est simplement lui répondre quand il pose des questions. Et puis utiliser ce qui se passe dans la vie, quand il dit « qu'est-ce que c'est que cet animal qui s'est fait écraser sur la route ?» de prendre ce moment-là. Ou quand on a un petit animal de compagnie qui est mort, de faire des rites avec l'enfant, de lui expliquer... Moi, je me souviens d'une collègue qui me disait « Je vais vite à l'animalerie parce qu'il faut que j'achète un canari. Le nôtre est mort et je vais le substituer pour que l'enfant ne s'en rende pas compte. » Un enfant de 4 ans, je lui disais « Mais comme c'est dommage parce que, d'accord, il risque de pleurer, mais en même temps, vous pouvez faire des rites, vous pouvez lui montrer de quoi il s'agit. C'est plus facile de commencer par un canari que par un être vivant. Donc, c'est vrai qu'un être humain. Oui. Donc, on pourrait prendre toutes ces occasions pour enseigner de façon à ce que la mort ne soit plus aussi tabou.
Sans compter la souffrance du canari qui va se faire appeler pendant des mois et des années par un prénom qui n'est pas le sien. Mais je ne suis pas Titi, voyons. Mais il y a ça aussi. C'est vrai que les animaux ne meurent plus non plus. Alors, citez le canari, le poisson rouge, c'est un peu moins facile avec un chien ou un chat. Mais ne serait-ce que le rapport aussi à l'exécution de l'animal qu'on mange,
absolument,
il a totalement disparu de nos vies aussi. On voit des poissons carrés avec de la panure et puis c'est un peu tout.
Tout à fait.
Ah, il faudrait, politiquement correct fait beaucoup de mal finalement.
C'est vrai.
Voilà, bon, il faut qu'on affronte.
Je voulais
la mort
juste dire encore quelque chose par rapport à ce qu'on a mentionné tout à l'heure, ces services qui ne sont pas souhaités par la personne qui va mourir et qui dit « moi je ne veux rien, je veux », etc. Alors, c'est vrai qu'on a souvent ces questions dans nos lignes. Ce que je propose aux gens, c'est de dire « ok, cette personne vous a demandé ça, eh bien vous pouvez honorer sa mémoire et faire ce qu'elle a demandé. Mais vous, en tant que famille, vous avez besoin et vous avez droit à un service du souvenir et on peut très bien faire ça en deux fois. C'est-à-dire faire un petit service dans l'intimité, puisque c'est ce que la personne a souhaité, et puis faire un service qui est destiné à la famille, sans cercueil bien sûr, où les proches, les amis vont pouvoir venir et donner du réconfort.
Et ça s'organise.
C'est faisable, je dirais. Comme ça, c'est pas tous les proches qui sont privés de tout ce que peut leur apporter un rite et le soutien de leurs proches.
Il y a une chose qu'on n'a pas abordée, Rosette Poletti, c'est la perte. Parce que voilà, on perd des proches toujours. Il y a différentes étapes que vous décrivez d'ailleurs, le choc, l'adaptation, et ensuite des étapes plus créatrices où il faut se reconstruire. Il y a évidemment un truc terrible, c'est la perte d'un enfant. Programmé, perdre des parents, c'est plutôt programmé dans la vie. Perdre un enfant, ça ne l'est évidemment pas.
Oui.
Et là, alors, vous conseillez clairement de faire appel à des professionnels.
Pas forcément. Il y a des gens qui sont parfaitement capables parce qu'ils ont dans leur environnement des ressources en termes d'amis, en termes de proches qui sont très capables de les aider. Moi, je dis aux gens que ça, c'est faisable. Moi, j'ai connu plein de gens qui ont pu le faire sans recours à des professionnels. Mais c'est vrai aussi qu'il existe des associations de parents qui ont perdu un enfant, comme Arc-en-Ciel, etc. Ou bien il existe justement des lignes d'écoute ou des groupes de soutien ou, en effet, quelquefois des professionnels. Mais je veux dire, il faudrait vraiment dire que le deuil n'est pas une maladie. Le deuil, c'est une épreuve de la vie que tous on connaît sous une forme ou une autre. La forme de perdre un enfant, c'est la pire des choses, ça on est bien d'accord. Mais il y a des gens qui ont une capacité de chercher autour d'eux ce qui leur est nécessaire, sans forcément avoir recours à des professionnels.
Je veux dire, il ne fallait pas hésiter, il ne fallait pas avoir peur
de faire appel à des professionnels. Mais en même temps, se dire qu'on est construit pour pouvoir supporter un certain nombre d'épreuves.
Vincent Lafargue, ça va être un petit peu le mot de la fin. Après, je rappellerai les différentes options qu'on peut avoir sur Internet pour en savoir plus. Vous avez fait la preuve, encore une fois, de votre ouverture d'esprit. Est-ce que l'Église a peur des laïcs qui se mettent à faire son boulot là?
Ah, pas moi, en tout cas pas. Je crois pas que l'Église doive en avoir peur. Au contraire, l'Église est de plus en plus sollicitée en termes de temps. On a de moins en moins de temps comme prêtre et les assistants pastoraux, c'est le même principe. Et donc, quel bonheur d'avoir des personnes qui peuvent aussi assurer un service d'accompagnement de personnes endeuillées. Je rappelle toujours aux personnes qui viennent vers moi que l'avantage d'un prêtre, c'est que si on l'appelle à 3h du matin pour ça, il est disponible, c'est clair, ça fait partie de notre vocation. Mais S'il y a d'autres personnes qui le font et qui le font bien, mais tant mieux. Je crois qu'aussi un des messages à dire aux gens qui nous écoutent, c'est parlez-en.
Oui.
Quelles que soient les personnes que vous avez autour de vous, les associations que vous rencontrerez, les ministres ou autres que vous trouverez sur votre chemin, parlez-en. Mmh. Ne restez pas avec un deuil sans en parler.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce moment autour de la mort et du deuil. Le site de l'association Vivre son deuil, hein, www.vivresondeuil, en un mot, -suisse.ch, où on trouve alors toutes sortes d'indications. Il y a également sur le site de la commune de Colombey-Murat, colombey-murat.ch, où là on trouve la brochure de Séverine Joris et tous les aspects pratiques pour la région, hein, pour aider à vivre un deuil. Merci encore une fois à tous les trois. Et
merci,
puis
merci.
Je ne résisterai pas à citer un autre grand, monsieur Desproges, vivez heureux en attendant la mort. Merci.